Terre à Terre, le magazine de l'environnement, on prend ce matin un bon bol d'air dans le cadre de notre série sur les territoires sans ménagement, une petite visite guidée en Seine-Saint-Denis, un toxic tour. Ça fait 10 minutes que vous nous promettez des endroits plus calmes et on n'arrive pas à en trouver. On va pouvoir le commencer, ce toxic tour.
Cette péniche avec son machin.
Si on commençait la visite ici, qu'est-ce que vous pourriez nous dire là? Il va falloir, vous aurez besoin d'un mégaphone quand ce sera.
Alors on se trouve à la porte de Paris, dans la ville de Saint-Denis, d'où partira un toxic tour dont on a été quelques habitanteux et habitants de la Seine-Saint-Denis à avoir le projet il y a maintenant de ça quelques mois. À l'origine, c'était suite à l'annonce de la conférence climat dite de Paris 2015 et qui ne se passera pas du tout à Paris, mais précisément en Seine-Saint-Denis et plus précisément encore au Bourget. Et nous, habitants dans ce département, on était frappés par le décalage qui allait pouvoir avoir, qu'on pourrait dire quasiment malheureusement connaître d'avance, entre à la fois le type de conclusions qui vont être données pour cette conférence qui est dite la conférence de la dernière chance et pour lesquelles les politiques aujourd'hui qui s'en occupent ont déjà considéré que ça allait mal se passer, et puis les problèmes très locaux de pollution que l'on rencontre dans ce département. Et on souhaitait en fait, avec ces toxic tours, articuler justement ces questions de problèmes de santé et d'environnement avec cette conférence climat.
Nous sommes ici au point de départ, c'est-à-dire justement sous le viaduc de l'autoroute A1 à Saint-Denis, avec ces bretelles dont la suppression est peut-être programmée dans l'avenir, mais qui aujourd'hui sont toujours là. Aujourd'hui, nous luttons pour l'enfouissement de ce viaduc, qui donc supprimera ce bruit ambiant que vous entendez sans arrêt et que nous avons du soir au matin et du matin au soir, tous les jours.
Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a un certain nombre de nuisances qui sont générées par l'autoroute. D'une part, les nuisances sonores, c'est pas difficile de le démontrer, mais les pollutions, surtout les pollutions pour la santé chimique, avec énormément de problèmes d'allergie aux microparticules, etc. On a un problème aussi d'insécurité routière parce que à toutes les bretelles, il y a sans arrêt des problématiques de traversées piétonnes qui sont dangereuses. Et puis on a surtout quelque chose qui est insupportable aujourd'hui, cette autoroute balafre la ville, coupe nos quartiers, sépare les commerces des lieux d'habitation, les écoles aussi. Et ça, c'est plus possible d'accepter autant de nuisances et de maltraitances pour population que tout ça.
Qu'est-ce que c'est que ces toxic tours que vous avez décidé d'organiser en Seine-Saint-Denis? Vous êtes un certain nombre d'habitants, d'associations, de collectifs, mais le concept n'est pas né ici, Émilie H.
Pas du tout. On a effectivement délibérément repris quelque chose qui existait déjà maintenant depuis un certain nombre d'années, notamment aux États-Unis, mais pas seulement, en Afrique du Sud également, au Canada et dans encore d'autres pays, qui, comme son nom l'indique, propose des balades ou des visites guidées, non pas de lieux nécessairement touristiques, mais souvent de sites pollués, d'un endroit local particulier, qui est fait par des habitants eux-mêmes et qui a pour objectif à la fois d'informer la population locale pour celles qui ne le seraient pas, c'est-à-dire de lui apporter vraiment des informations précises, mais d'informer également éventuellement les salariés aussi de ce territoire, des élus, etc., avec, dans un deuxième temps, l'idée que plus l'information sera partagée, plus on aura la possibilité d'inventer des propositions qui modifieront cette situation de pollution.
Mais quand vous parlez d'information, est-ce que vous avez le sentiment qu'ici, en Seine-Saint-Denis, les habitants ne savent pas qu'il y a un certain nombre de problèmes de pollution ?
C'est exactement une question qu'une habitante à qui je distribuais nos jolis flyers m'a faite en me disant « Mais enfin, qui ne sait pas ici que ce territoire est pollué ?» Je suis absolument d'accord. L'idée de départ n'était pas de partir en se disant que les gens ne savent pas, qu'on allait apprendre aux gens ce genre de choses. Mais c'était plus dans l'idée d'apporter une information réellement précise et qui notamment permettait à chacun qu'il souhaiterait, d'être capable aussi pour lui-même et vis-à-vis de toute personne à qui il aurait ce genre de discussion, de pouvoir répondre aux différentes objections à l'égard des critiques ou des reproches que l'on aurait à formuler à l'égard, par exemple, de cette question de l'autoroute. C'est-à-dire, oui, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est beaucoup trop cher, pas en l'état, etc. En fait, le fait de savoir, comme ça a été notre cas, un petit groupe d'habitants et de Saint-Denis et de Seine-Saint-Denis, qu'il existait de prendre contact avec les associations locales qui faisaient un travail absolument remarquable d'expertise et d'information auprès notamment des élus depuis maintenant plus de 10 ans. Nous qui croyons savoir justement les premiers ce qu'il en était, on a appris réellement beaucoup de choses sur cette pollution, sur son origine, sur ses causes, sur de manière précise sur les trajets qu'elle pouvait prendre, sur les effets qu'elle pouvait avoir sur des populations sensibles, mais également aussi, moi c'est ce qui m'a le plus évidemment intéressé peut-être, mais aussi qui m'a, là où j'ai le plus appris, c'était sur les propositions très concrètes et faisables que l'on pouvait défendre et pour lesquelles on pouvait se battre contre les effets de nuisance de cette autoroute. Et ça rend beaucoup plus fort et c'est beaucoup plus optimiste aussi lorsque justement on peut effectivement se dire, oui, peut-être que l'enfouissement de l'autoroute pourrait coûter entre 300 et 500 millions d'euros, je crois que c'est à peu près l'estimation. Mais lorsqu'on sait que si la France payait l'amende qu'elle est censée payer pour le fait de dépasser quotidiennement le seuil de pollution autorisé par l'Union européenne, qui est de l'ordre de 100 millions d'euros par an, on se dit, en 5 ans, en fait, c'est remboursé. Ça donne vraiment, une force aux personnes qui sont les premières concernées.
Si je vous demande de me décrire les lieux, les milliages.
Alors, c'est un endroit que j'aime beaucoup, près duquel j'habite, malgré tous les défauts qu'on vient de citer, c'est-à-dire ces problèmes de bruit, de pollution, etc. On se trouve, en fait, sur le canal Saint-Denis, qui est un vieux canal qui était construit sous Napoléon, je crois, Napoléon III, si je ne dis pas de bêtises, et qui part de la Villette, à peu près, et qui se jette dans la Seine, juste un peu plus loin, au niveau de l'île Saint-Denis. Les berges de ce canal ont été entièrement refaites il y a quelques années, permettant aux riverains et à tous ceux qui le souhaitent, notamment de rejoindre à pied ou en vélo la Villette, donc Paris, depuis Saint-Denis. Et c'est paradoxalement un endroit très calme, d'une certaine manière également.
Je sais. Et apaisant.
Et apaisant.
Tout à fait. Ça veut dire que vous ne voyez plus les barres d'immeubles, le Stade de France, la grande enseigne sur son entrepôt logistique.
Disons qu'ils sont en arrière-plan. Non, parce que c'est rare d'avoir de l'eau comme ça en ville, d'avoir une rivière, d'avoir un canal. C'est assez rare. Et donc, il n'y a qu'ici qu'il existe en plus. Hein. Enfin, il traverse plus ou moins Saint-Denis. Mais l'été, il faut voir le monde qu'il y a, les enfants, tout ça.
À deux pas d'ici, Marie Tavernier a tourné un documentaire sur un petit délaissé. Extrêmement joli, vous l'avez vu, vous le connaissez ?
Marie a pris un angle tout à fait particulier pour mettre en valeur la problématique des délaissés. Et ici, nous sommes quasiment un délaissé en centre-ville, vu que tout se construit autour, tout s'urbanise. C'est une volonté qui a permis de mettre ce projet en tête, dans l'esprit de tout le monde. Sauf que là, les délaissés, il est question aussi peut-être de les raser, de les faire disparaître, alors qu'en fait, ils ont leur biodiversité, ils ont leur propre vie, ils ont également leur attraction. Et pour nous, c'était important de l'avoir à nos portes, puisqu'on est résident de la Porte de Paris.
C'est effectivement un lieu de promenade, un lieu de pique-nique, un lieu de rêverie pour beaucoup d'habitants.
Et puis il y a un stabilisé pour faire du football et puis du sport, donc ça veut dire qu'il y a un peu de tout. Et puis c'est juste le bassin de la Maltournée, qui est juste en face, et qui, au début du siècle dernier, même jusqu'après la guerre, permettait d'avoir des fêtes. Il y avait des joutes avec comme ça se fait dans le sud de la France, avec les canaux. Donc c'était vraiment remarquable. Et puis ensuite, dernièrement, il y a eu, à la suite du championnat du monde de rugby, il y a eu également des animations genre feu d'artifice, il y a eu tout ça dans ce coin-là. Donc c'est un endroit qui bouge, qui est vivant.
Voilà, on est beaucoup plus tranquille là, dans cette petite rue. Claudie Gillot-Dumoutier.
Tout est relatif, évidemment. On vient de passer un moment tout près du canal qui est à la fois magnifique, mais quand même relativement bruyant, finalement. Mais bon, c'est pas désagréable, les péniches, quand même. On s'y habitue plutôt bien. Et là, la question, elle est plutôt les nuisances qui sont liées vraiment à l'autoroute. Et nous avons ensemble, c'est-à-dire que moi je suis d'un autre quartier de Saint-Denis, je ne suis pas de la Porte de Paris, je suis du quartier qui est près de l'hôpital de La Fontaine, qui est un hôpital quasiment au-delà de la communauté d'agglomération, quoi, dans tout le département au nord. Et on a, avec nos amis de la Porte de Paris, constitué un dossier santé pour mettre en évidence les problématiques qui sont vraiment posées par l'autoroute dans notre ville. On s'est rendu compte en cherchant un petit peu qu'il y a pas mal de cartographies qui sont faites. Et sur le bruit, par exemple, on est à peu près, on peut évaluer à 36 000 personnes exposées à Saint-Denis sur le bruit, au-delà des normes qui sont des normes déjà pas mal, hein, les seuils admis, oui, c'est ça. Et bizarrement, les personnes d'Air Paris nous l'avaient déjà dit, il y a beaucoup d'établissements de santé et des établissements d'enseignement qui se retrouvent dans cette zone hyper polluée par le bruit. 13 établissements de santé et d'enseignement sont en zone dépassement le seuil jour et 6 établissements de santé, dont l'hôpital, qui est vraiment au ras de l'autoroute, sont en zone dépassant le seuil la nuit.
Donc sur De La Fontaine, c'est le plus grand hôpital de Seine-Saint-Denis, c'est plus de 3500 naissances, donc environ 10 naissances par jour d'enfants qui naissent donc au pied de l'autoroute. Moi, c'est le cas de mon plus jeune fils, mais c'est évidemment des milliers de naissances depuis je ne sais pas combien d'années, juste à cet endroit-là, quoi.
Alors, on a aussi cherché à mettre en évidence la pollution atmosphérique. Et on a trouvé évidemment un certain nombre de cartes qui montrent les expositions aux microparticules, qu'elles soient très fines ou pas très fines. On peut dire qu'à Saint-Denis, on...
Ça, ce sont toutes les particules issues de la combustion, des
oui,
moteurs.
Oui, tout à fait. Oui, ouais. Oui, des 220 000 véhicules dont parlait Roland tout à l'heure. Et on peut dire qu'on a quasiment des dépassements de seuils tous les jours ouvrables, c'est-à-dire les seuils européens. Donc à Saint-Denis, c'est un record quasiment national de pollution aux microparticules. Et quand on regarde la carte, on voit le chemin de l'autoroute. C'est là où la couleur montre le chemin précisément de l'autoroute A1, celui dont, qui traverse
c'est
Saint-Denis.
C'est là qu'on voit l'accumulation des particules la plus importante.
C'est quand même un axe extrêmement important, l'autoroute A1, puisqu'il s'en va carrément sur tout le nord de l'Europe. Et donc, autant on est sensible à ça et on pense qu'il faut continuer à permettre qu'il y ait cette circulation économique des gens, du tourisme, autant on demande aujourd'hui le respect des populations qui sont aujourd'hui maltraitées par cette autoroute.
C'est pas un peu contradictoire, ça, de vouloir que la circulation se poursuive et en même temps... regretter la pollution ?
Mais c'est pas qu'on veut que la circulation, ça nous paraît évident qu'il faille la circulation à travers les différents pays européens. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est la neutralisation des nuisances de l'autoroute. Et pour nous, le seul moyen d'obtenir cette neutralisation, c'est pas de mettre un petit mur de temps en temps, c'est même pas la couverture telle qu'elle est faite à la plaine Saint-Denis. On pense aujourd'hui que la seule solution valable, c'est l'enfouissement de l'autoroute. Et on a des exemples, on a regardé aussi dans d'autres pays du monde, les grandes métropoles aujourd'hui enfouissent leurs autoroutes et traitent même les effluents, enfin tous les gaz. Il y a aujourd'hui des technologies complètement nouvelles, et donc dans 20 ans, elles seront encore beaucoup mieux, y compris les bruits qui sont traités pour être transformés en énergie, en plein de choses. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus. Et on pense que nous, on mérite bien la population dionysienne, comme la population de pleine commune, parce que ça touche aussi la Courneuve, on mérite bien qu'on prenne en considération notre santé et notre bien-être, et c'est le prix qu'il faut payer maintenant pour qu'on continue à avoir des axes routiers, autoroutiers. Il faut s'occuper des populations, on ne peut plus les mépriser comme on est aujourd'hui encore méprisé. Je citais tout à l'heure, dans un des quartiers où j'habite, il y a une rue qui est coupée par l'autoroute. C'est-à-dire qu'il y a son nom d'un côté, il y a son nom de l'autre côté. Des gens qui étaient des voisins, depuis 40 ans, ne se parlent plus parce qu'il y a l'autoroute qui est au milieu. C'est des situations qui sont indignes, quoi. C'est pas possible. Ou des enfants qui partent de chez eux, qui doivent passer sous le deuxième viaduc de l'autoroute, longer un trottoir, un micro-trottoir, traverser pour aller à leur école primaire et maternelle. C'est quand même des conditions aujourd'hui qui sont maintenant insupportables. Et on est maintenant associé au niveau des habitants, des citoyens, sur notre volonté qui est maintenant absolument déterminée d'enfouir cette autoroute. Hein. Alors évidemment, on nous dit ça coûte très cher, c'est pas le moment, vous vous rendez pas compte aujourd'hui. Et on a fait des calculs au-delà de ça coûte des millions et des millions pour se rendre compte que finalement le rapport coût-avantage est extrêmement intéressant. D'abord, le coût sur la santé, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais au-delà de ça, si on n'avait plus l'autoroute en ville, on aurait des terrains qui seraient beaucoup plus valorisés. Et du coup, les investissements de cette autoroute-là seraient largement compensés par la possibilité de construction, de fonciers qui seront récupérés. On compte à plus de 15 hectares la récupération de fonciers sur cette autoroute enfouie. On a à côté le fort de l'Est aussi, qui est aujourd'hui encore, qui appartient aux armées, mais on a bon espoir que ça revienne dans la vie civile. Et donc c'est tout un territoire finalement géographique qui aurait une autre configuration complètement différente. Voilà. Et puis quand on rapporte le coût de cet enfouissement au nombre de véhicules, au nombre de passages sur une trentaine d'années, ça fait jamais que 2 centimes d'euros par passage. Donc c'est rien, on ne peut pas compter ça si on ne tient pas compte d'une durée, quoi. Sur 30 ans on fait ce genre de calcul, et nous on nous répond toujours c'est des millions, on ne les a pas dans notre poche. Il y a en plus, vous le savez sûrement, que la France est sous le coup d'une menace, d'une amende, puisqu'elle ne prend pas de mesures pour protéger les populations des pollutions. Et donc, cette amende très, très, très lourde, si on la met en balance du coût, finalement, de cette autoroute, on sent bien là qu'on y gagnerait tous. On y gagnerait sur la santé, mais aussi sur une amende qu'on n'aurait pas à payer si on pouvait, finalement, extorquer cette décision-là. C'est une décision politique, mais on sait très bien que nous, les habitants, si on ne s'en mêle pas, on ne l'aura jamais. On a ici, à Saint-Denis, une expérience de lutte de plus de 30 ans. On a plusieurs lutte d'ailleurs. Le métro s'arrêtait à Pleyel dans les années, je sais pas, 50-60. Il a fallu 30 ans pour qu'il arrive porte de Paris, et il a fallu peut-être 10 ans encore pour qu'il arrive à la mairie. Mais on a eu une lutte de plus de 20 ans pour la première partie de cette autoroute A1, de la porte de la Chapelle à la porte de Paris, qui a finalement été soldée par la couverture de l'autoroute, qui a été quelque chose qui a été marchandé avec l'arrivée du Stade de France.
Mathieu Gleiman.
Ce que je trouve aussi intéressant, c'est de matérialiser ce qu'on peut faire sur les questions climatiques. Parce qu'on a souvent l'impression que c'est des sujets, j'ai envie de dire, planétaires ou internationaux, où notre action individuelle, elle est évidemment très limitée, c'est une petite goutte d'eau. Et là, on peut collectivement montrer aussi d'abord qu'il y a toute une histoire de mobilisation. On a l'impression que, par exemple, tout un tas d'habitants dans le territoire se laissent faire, entre guillemets, ou sont un peu écrasés par les sujets écolos au sens très large. Et en réalité, il y a eu énormément de mobilisations, comme le disait Émilie, énormément de savoirs qui ont été accumulés par des habitants, des collectifs, des associations. Et je me dis, à travers ces balades urbaines, qui sont aussi une forme sympa, parce que notre idée, c'est pas de faire des trucs chiants, c'est pas d'être dans des colloques avec des experts, c'est de mélanger des gens qui ont des fonctions différentes, mais dont le point commun, c'est qu'ils habitent ce territoire. On est des habitants qui aimons les endroits où on est, et en même temps qui ne sont pas dupes sur ces questions.
Donc il ne s'agit pas de voyeurisme sur des territoires stigmatisés, mais vraiment, c'est spécifiquement destiné aux habitants.
C'était exactement une autre inquiétude dont on m'avait fait part, notamment lorsqu'on avait eu l'occasion de commencer à faire ce projet avec différents habitants. On n'avait justement pas non plus exclu des personnes qui n'habiteraient pas ici d'y participer. On a d'autres personnes qui vont venir, qui ont participé à l'élaboration de ce projet, qui habitent notamment à Paris, et qui se posaient cette question-là en disant « Moi, ça me gêne un petit peu de venir, j'ai l'impression que voilà, je vais venir effectivement comme une forme de voyeurisme ». Alors, la question se pose différemment pour nous, parce que, de fait, on y habite. Et par ailleurs, si on prend aussi une autre échelle, cette question de santé et de pollution n'est pas du tout... Enfin, je veux dire, on n'est pas dans voyeurisme quand on s'aperçoit qu'on est tous concernés.
L'affaire de la Saria, ça me rappelle vaguement quelque chose. Qu'est-ce que c'était exactement ?
Ça rappelle peut-être au niveau de l'odeur et ce que ça a pu représenter à l'époque comme combat. Saria, c'est une anecdote. Il y a eu un match important international au Stade de France un soir, et à un moment donné, il y a monsieur le préfet qui s'installe à côté du député à l'époque, et d'un seul coup, tout le monde se met un mouchoir sur le nez, et à ce moment, il y a le préfet qui se tourne vers le député qui dit « Mais s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est que cette odeur horrible ?» Et à ce moment-là, le député dit « Mais monsieur le préfet, c'est la Saria. » Et dès le lundi matin, on a eu des coups de fil en ce qui concerne la préfecture pour essayer de trouver une solution. Mais ça a été plus loin encore. Ça a été qu'on a créé une association pour pouvoir justement mettre à bas, entre guillemets, cette activité en centre-ville, puisqu'on considère que c'est un centre-ville. On a fait la première class action qui existait à l'époque, parce qu'on a tous déposé plainte contre la Sarria. Or, on avait devant nous l'administration qui faisait comprendre que le classement de ce type d'établissement était nécessaire par rapport au ramassage des eaux des boucheries qu'il y avait sur le territoire de cette partie de Saint-Denis.
C'était un abattoir, Roland Lecoq ?
Non, c'était pas un abattoir, c'était uniquement des traitements des eaux de boucherie. Donc il y avait une noria de camions qui était parfois à ciel ouvert. On voyait les eaux sortir de derrière. C'était vraiment innommable. Mais le plus grave, c'est qu'en termes de santé publique, on en parlait, c'est qu'il y avait des femmes enceintes qui tombaient dans évanouies. On interdisait les enfants de jouer dans la cour lorsqu'il y avait, sous le vent, qu'il y avait ces odeurs qui venaient imprégner la cour de l'école. On empêchait des personnes qui avaient des problèmes de respiratoire de faire du sport. On leur déconseillait de faire du sport. Je vous parle sous votre couvert, vous les anciens aussi, qui comme moi, avons vécu ces affres. Donc, pollution, dépollution, il n'y a pas que le Stade de France en ce qui nous concerne sur la Porte de Paris.
Qu'est-ce que c'est devenu, cette entreprise ?
Il y a eu un certain nombre d'aménagements qui ont été nécessités par justement cette pression à la fois des autorités et en même temps de trouver une solution. Un classement de ce type-là, de documents d'établissement de cet ordre, on ne le déplace pas n'importe comment. Il a fallu trouver des compensations, il a fallu trouver des aménagements. En plus, c'était le siège social. Donc, je crois que c'est le principe de la dépression d'une chambre spéciale avec une forme de navette où les petits camions venaient livrer les gros camions qui partaient ensuite dans les traitements, dans les grands centres qu'il y avait. Il y a eu un souci aussi, c'est que c'était l'époque où justement on s'est rendu compte que pour certaines gélules qu'on avait dans certains produits médicamenteux et autres, les gélules étaient à base effectivement de ce produit valorisé de la Sarria. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, sans faire de la publicité, parce que maintenant ils n'existent plus, fond dans la bouche, pas dans la main. C'est-à-dire qu'au dixième de degré près, on pouvait obtenir une température qui permettait que justement cette couverture, cette espèce de pellicule très fine qu'il y avait autour de ce fruit, enfin de ce fruit ou de ce chocolat, ne fonde pas dans la main, mais que dans la bouche, à un dixième de degré près. C'est-à-dire qu'il y avait un véritable savoir-faire, une compétence d'ingénierie qui était absolument remarquable, qu'on a eu l'occasion. On a fait partie de ceux qui ont visité régulièrement cet endroit et qui ont mis des heures à se retirer l'odeur sur leur propre peau, parce que c'était épouvantable, et que les conditions de travail, effectivement, de certains collaborateurs nous posaient problème, nous, en tant que visiteurs. Donc on est arrivé à créer cette association, on a déposé plainte en groupe, et on a tous gagné contre Sarria. C'est la première fois qu'une association, non seulement déposée plainte, soit accueillie par la juridiction, mais également qu'on ait gagné le procès. On a tous misé une certaine somme d'argent pour pouvoir payer l'avocat, mais une fois qu'on a eu les dédommagements, on a tous été rentrés dans nos fonds.
Et si à ça on veut ajouter une autre nuisance qui renvoie directement à la conférence pour le Cours Bourget, eh ben c'est le bruit des avions. Quand on pense que le Bourget est le seul aéroport européen à autoriser l'atterrissage et le décollage d'avions qui sont eux aussi en dehors de toutes les normes de sécurité et autres, c'est absolument affligeant, quoi. On a la nuit des avions qui décollent, des gros cargos ou des petits avions.
Qu'est-ce que c'est que ces avions hors normes ?
On a une conférence à Saint-Denis qui a été initiée il y a maintenant 5-6 ans par l'élu à l'écologie urbaine qui démontrait qu'il avait fait venir des professionnels évidemment, qui démontrait que cet aéroport ne répond pas aux normes d'aujourd'hui. C'est là où il y a le plus de trafic et de trafiquants d'ailleurs, d'armes, de plein de choses. Et il y a parfois des avions qui ne sont pas acceptés à Roissy parce qu'ils ne sont absolument pas conformes aux normes d'atterrissage, qui viennent en toute tranquillité atterrir au Bourget. Voilà. Donc on nous a dit, vous avez finalement au-dessus de vos têtes, de temps en temps, des avions qui sont limites et qui pourraient, par exemple, oui, tout à fait. Et on vit avec ça. Sans compter les énormes couloirs qu'il peut y avoir sur tout Saint-Denis, au-dessus des collèges, au-dessus de l'hôpital, au-dessus des habitations.
Comme parent d'élève, je me suis retrouvé dans une commission d'appel au collège Joliot-Curie-Astin, donc qui est dans ce cône de bruit. Et à chaque fois qu'un avion passait, on arrêtait la commission pendant 5 minutes. Donc c'était incroyable, hein, parce que moi, j'imaginais pas que les enfants et les profs étaient obligés d'interrompre le cours. Je pensais qu'il y avait un bruit un peu ronronnant permanent, mais là, on était, je sais pas, à 3 mètres l'un de l'autre, hein, autour de table, et on était obligés de s'arrêter pendant bien 5 minutes. Donc c'est quand même enfin, incroyable qu'on ait mis un établissement scolaire là ou qu'on maintienne cet aéroport à cet endroit, quoi.
Il devrait être fermé, cet aéroport.
Quel lien est-ce que vous faites concrètement avec le changement climatique sur les prospectus que vous distribuez? Vous parlez, vous faites état de la conférence sur le climat qui va se tenir effectivement, non pas à Paris, mais en Seine-Saint-Denis, à la fin 2015. Comment est-ce que vous allez rattacher les différents éléments que vous allez faire visiter à vos groupes de touristes dionysiens à cette grande question mondiale? Émilie H.
En fait, le point de départ de cette Toxic Tour, c'est vraiment cette conférence Climat 2015, au sens où vous venez de le dire. Elle n'aura pas lieu à Paris, mais dans l'aéroport du Bourget, même dans un hall de gare absolument sinistre du Bourget, c'est-à-dire en territoire de Seine-Saint-Denis. Et le point de départ était le suivant, à savoir qu'on était choqués, on va dire, à l'avance, de l'écart absolument inévitable qui allait pouvoir se produire entre des problématiques locales liées à des questions de santé et de pollution, et effectivement le débat qui va se situer, pour le dire très rapidement, à un niveau très global sur ces questions-là, comme si ces deux questions n'étaient pas touchées. Donc quand vous me demandez quel est le lien que nous on va faire, c'est pas le lien que nous on va faire, c'est le lien qui existe déjà, mais qu'on avait envie de visibiliser, si je puis le dire de cette façon-là, qu'on avait envie de rendre concret. Et pour prendre l'exemple de ce Toxic Tour qu'on organise prochainement là sur l'autoroute, ça va être le cas aussi d'un autre qu'on aimerait faire autour de l'aéroport du Bourget, pourquoi se priver? Eh bien, évidemment, la question de la pollution liée aux autoroutes et aux voitures, on le sait, est une des causes majeures du dérèglement climatique. Donc le lien, en fait, il est là. Simplement, on avait envie à la fois de faire quelque chose concrètement, en amont et puis en préparation d'une certaine manière collective et locale de cette conférence-là. On avait envie de ne pas rester passif en se disant bah, « de toute façon, on sait d'avance que cette conférence va être un échec et qu'on est complètement consterné et de plus en plus paralysé par ce qui nous attend ». Et puis par ailleurs, en se disant aussi que c'était une façon justement à la fois de mobiliser de plus en plus de personnes locales qui pourraient être dans la même, on va dire, dans le même sentiment un petit peu de paralysie et de pessimisme, et concrètement d'avoir un objectif très réel et de beaucoup plus court terme, qui était aussi l'enfouissement de l'autoroute. Ça passe aussi par là, les propositions pour répondre à ce dérèglement climatique.
Admettons l'enfouissement de l'autoroute, même si, de fait, moi, je continue à trouver ça assez paradoxal. En revanche, l'aéroport du Bourget, je ne vois pas comment vous allez pouvoir enfouir des vols internationaux et multiples. Chaque jour. Bon, Mathieu Gleman.
Il y a des gens, y compris parmi les élus, hein, qui sont très hostiles au Bourget. Et moi, je peux tout à fait imaginer que dans 20 ou 30 ans, cet aéroport, il ne soit plus à cet endroit-là. Après, la question qui est aussi posée, c'est qu'est-ce qu'on fait des terrains qui sont autour? On a des espaces sur différentes villes qui sont en train d'être construits dans une partie de ce qu'on appelle le cône de bruit, c'est-à-dire vraiment l'endroit où il y a le bruit maximum. Quand tout à l'heure je parlais des établissements scolaires qui sont dans ce cône de bruit, aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, moi j'ai envie de dire que les gens, ils le vivent déjà, le rapport aux questions énergie-climat international, de cette manière-là, le bruit, la pollution, avec quand même un département où on a un très grand nombre de gens et d'enfants notamment touchés par les maladies respiratoires, les bronchiolites et autres.
Que les gens vivent ça, ça paraît une évidence. La question que je vous pose, c'est celle de la prise que vous pouvez avoir sur ces problèmes-là.
Moi, je me dis, si on ne fait pas ce genre de choses, mais il faut qu'il y en ait plein, hein, des formes différentes, qu'est-ce qui va ressortir de ce sommet? Un échec, parce qu'il est déjà quasiment programmé et acté, et quelques images avec Barack Obama, François Hollande et puis je ne sais pas qui. Ça, dans le fond, si on a envie que ce soit que ça, pour moi, ça serait catastrophique. Ce qui serait intéressant, et nous, c'est notre objectif, c'est que, par exemple, on puisse, à la fin des différentes balades qu'on aura faites pendant, je sais pas, 12-15 mois, aboutir à une marche symbolique des habitants de la Seine-Saint-Denis sur les questions climatiques. Un peu comme elle a existé là en septembre au niveau international, ben on pourrait tout à fait, au moment de ce sommet, avoir une marche, j'espère avec plusieurs milliers de personnes, qui questionnent les responsables politiques et les experts sur ces questions. Enfin, pour moi, rien n'est pire que, quel que soit le sujet, les experts et les politiques qui parlent entre eux sans aucun lien avec les habitants des territoires. Et là, on voit bien, même rien que dans l'intitulé de la conférence, elle est intitulée Paris, parce qu'évidemment, ça fait prestigieux, et en réalité, elle va se dérouler dans un pauvre hangar au Bourget, dans un endroit qui, à mon avis, est tout sauf sexy, quoi. Mais en même temps, les images qui sortiront de ce sommet, c'est quelques chefs d'État qui vont parler, qui vont faire à nouveau, comme c'est le cas depuis malheureusement des années, des belles déclarations, j'ai envie de dire des larmes de crocodile, à la suite des nombreux rapports du GIEC qui sont quand même maintenant, depuis plusieurs années, très alarmants.
Je voudrais faire une petite parenthèse sur le Stade de France. L'architecture de l'édifice est absolument adoptée par les Dionysiens et nous l'apprécions beaucoup. Donc, parmi peut-être les édifices qui gênent, ce n'est certainement pas le Stade de France qui pose problème.
Roland Legros, ce n'est pas uniquement des querelles esthétiques qu'il y a autour du Stade de France?
Non, tout à fait. Il y a toute une histoire entre pollution et dépollution qui a marqué l'érection et le positionnement de cet édifice à la porte de Paris à Saint-Denis. Au début, c'était parce que la zone industrielle avait pollué les sous-sols et il a fallu donc faire attention, des analyses, et puis surtout, entre guillemets, mettre entre parenthèses ce Stade de France qui flotte. En fait, il y a tout un véritable structure, c'est un genre sarcophage, qui fait que le Stade de France n'est pas du tout sur ses assises, il flotte, parce qu'il y a de l'eau en dessous, il y a de l'eau. Ces nappes phréatiques donc bougent beaucoup, et c'est pour ça que de toute façon, il y a également des émanations de gaz qui restent dans ce stade et qui, de temps en temps, réapparaissent dans les évents que vous avez sur les côtés.
Des émanations de gaz qui sortent de la nappe phréatique ?
Oui, tout à fait, parce que ça bouge. Et de temps en temps, il y a des poches de gaz qui continuent à bouger. C'est incroyable. Ça va jusqu'à Chantilly. Hein. Donc, la nappe phréatique du bassin va très loin, tout autour de Paris.
Et la pollution industrielle, qu'est-ce que c'était ?
Il y avait toutes les formes d'industrie, plus ou moins polluantes, plus ou moins marquantes, et qui sont restées plus ou moins sur le sous-sol.
Mais quelques exemples, surtout les gazomètres.
Oui, les gazomètres ont posé des gazoils et tous ces genres de fluides lourds ont amené à résoudre de façon plus drastique le problème de la dépollution du Stade de France. Alors dépollution, c'est quand même assez rigolo parce que tout au long de sa vie, depuis 20 ans quasiment, ce stade a suscité des réactions qui ont tourné autour de ces notions. Avant d'arriver à l'exploitation, c'est-à-dire les concerts par exemple, je peux vous dire qu'on parlait tout à l'heure des fractures urbaines, les pollutions donc dues à la circulation, ce n'est pas rien. Là où vous êtes ici, si vous regardez bien, c'est 220 000 véhicules jour qui passent. Et ensuite, dans l'exploitation, c'est-à-dire la façon dont le Stade de France vit avec les concerts, on a été amené à justement réagir, de ne pas laisser se faire cette notion d'agression sonore qu'on a souvent rencontré dans les premiers temps des concerts.
Parce que quand il y a des concerts, il y en a souvent des concerts au Stade de France?
Non, de moins en moins, de moins en moins.
Et quand il y en a, c'est...
Ça dépend de ceux qui jouent le jeu ou pas le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on vous dit qu'il y a une norme maximale en ce qui concerne l'émission de certains sons, il y en a qui vont jusqu'au maximum du maximal. Il y en a d'autres qui sont un peu en dessous, comme Yannick Noah, par exemple, qui a joué le jeu, comme Indochine, qui a joué le jeu. Il y a des artistes qui ont tenu compte de nos revendications en tant que riverains. Là, je vous parle avec l'Union des associations des riverains du Stade de France.
Qu'est-ce que vous demandiez exactement ?
Nous demandions que les sons soient abaissés et surtout que les infrasons, les sons de basse fréquence, qui passent dans les structures, entre autres le bâtiment qui s'appelle le Guélogy à côté, ne subissent pas les mêmes déboires qu'ils l'ont subi lors de la première nuit de David Guetta.
C'est-à-dire ?
Alors, ça a été vraiment fabuleux. En 2008, David Guetta est venu avec un projet d'une nuit blanche. Cette nuit blanche était de 22h jusqu'à 6h du matin. Et c'était non-stop. Et en fait, on s'est rendu compte que toute la nuit, les vaisselles sont entrechoquées. Dans des cuisines, il y a une paillasse qui s'est fendue. Ensuite, il y a eu des gens qui n'ont pas dormi de la nuit. Donc, ce que je disais à Monsieur le Préfet à l'époque, je disais, Monsieur le Préfet, il y en a qui ont payé pour passer une nuit blanche à écouter de la musique. Il y en a qui n'ont pas payé, mais qui ont passé une nuit blanche à entendre du bruit. Et ça lui a plu au Préfet. C'est pour ça qu'il nous a appuyé pour qu'on fasse, en 2009, on exige des travaux du Stade de France, une nouvelle sonorisation. Entre autres, les perches sont descendues d'1,20 m et les enceintes dirigées vers la pelouse et non pas en son émergent. On a obtenu que ce ne soit pas 105 décibels, 110 décibels, mais que ce soit 97 décibels.
Victoria Chavrin, ça va loin, le bruit des concerts ? au Stade de France ?
Oui, disons que tout le pourtour, bien sûr les plus exposés sont ceux qui habitent tout près, la résidence du Guélogis, mais...
C'est-à-dire à combien de mètres ?
200 mètres. C'est 200 mètres à peu près, oui, là vraiment...
Ah, c'est les plus proches ?
Ce sont les plus proches, les habitations les plus proches, oui. Qui ont eu un double vitrage, mais enfin, ce n'est pas suffisant. David Guetta, avec son dépassement à plus de 100 décibels, a franchi le double vitrage allègrement. Et nous-mêmes, Porte de Paris, un petit peu plus loin, disons à 500 mètres du stade, nous entendions le vacarme.
Quand on imagine le catalogue des tours toxiques en Seine-Saint-Denis, on se dit qu'il doit être une extraordinaire richesse. Quels sont les thèmes que vous avez envisagés, prévus de proposer pour ces différentes balades ? Il y en a tellement. Émilie H.
La liste est effectivement aussi longue que l'on souhaiterait, malheureusement. On a pour autant choisi, du moins... d'ici la conférence 2015, en raison notamment de nos petits moyens, nos petites forces, alors que nous travaillons à peu près tous par ailleurs, d'en sélectionner trois, mais ce n'est pas du tout les seuls que l'on pourrait choisir. On pourra continuer si on a envie par la suite. On a choisi effectivement de travailler cette question d'autoroute dont on a déjà parlé, qui nous semble absolument majeure. On a choisi, on vous le disait également, parce que c'est peut-être un sujet aussi qui est trop peu traité, paradoxalement, à savoir la question des aéroports, mais aussi évidemment du transport aérien, comme si celui-là, il était propre, on ne sait pas pourquoi, alors qu'on a une autoroute au-dessus de notre tête permanente, notamment en Seine-Saint-Denis. Et puis également la question des data centers. Mais effectivement, la liste pourrait être bien malheureusement rallongée sur les problèmes d'amiante, sur les problèmes de nucléaire. Enfin, il y a malheureusement beaucoup d'autres sujets possibles.
On a déjà... moi, j'ai pris contact avec des associations qui se battent, par exemple, à Drancy contre... le stockage de matières dangereuses et le transport par ligne de chemin de fer. On peut tout à fait imaginer, montrer aussi dans la partie détox, les constructions bois, les endroits où il y a eu vraiment des travaux importants d'isolation thermique. Parce que la question, par exemple, sur le territoire, une des principales, on l'avait vu quand il y avait eu tout un travail autour du plan climat-énergie de la communauté d'Aglo, c'est les émissions par le bâtiment. Et pourquoi ? Parce qu'on est dans des bâtiments extrêmement abîmés, qui pour certains étaient des passoires énergétiques au bout de quelques mois après leur création. Et aujourd'hui, il y a à la fois de la construction avec des normes beaucoup plus intéressantes, mais aussi un énorme travail à faire sur tout le stock, entre guillemets, de logements qui existe, et où là, il y a un chantier énorme. Donc c'est toutes ces questions-là qu'on va essayer de balayer. Après, on va être aussi... par exemple, moi, j'ai été approché par des associations qui, par exemple, sur Saint-Denis ou dans des villes du coin, travaillent sur le développement des circulations douces, donc pistes cyclables, marches et autres. Et on peut tout à fait imaginer trouver des formes un peu différentes. Parce que notre idée, c'est de faire à la fois des balades urbaines, de faire des rencontres, débats autour de bouquins, de films, et puis aussi d'aller dans des manifestations diverses et variées qui sont sur le territoire. L'idée, ce n'est pas de faire un truc d'experts ou d'habitants spécialisés. C'est d'aller, je ne sais pas, dans les kermesses, dans les fêtes des villes et autres aussi.
Qui sont les organisateurs de ces Toxic Tours en Seine-Saint-Denis ? Émilie H.
On n'est même pas encore un collectif, je crois. On s'appelle un collectif, mais de manière un peu symbolique, en tout cas au départ. Donc on est, on le disait... un certain nombre d'habitants et d'habitantes de Seine-Saint-Denis, d'Épinay, d'Aubervilliers, de La Courneuve aussi, qui, donc, pour chaque thématique choisie autour de ces Toxic Tours, évidemment, ça semble logique, cherchons à contacter, à découvrir s'il existe déjà sur le territoire des associations qui travaillent sur ces questions-là. Et comme le disait effectivement Mathieu, on découvre et avec bonheur qu'il existe évidemment des gens qui ont amassé ce genre d'informations. Et concernant la question d'autoroute, on a eu la chance de rencontrer, d'avoir à nos côtés pour ce Toxic Tour, le comité Porte de Paris et le collectif La Maze, ainsi que l'Union des associations des riverains du Stade de France, qui réunit en fait 14 associations donc riveraines. Donc, autrement dit, c'est vraiment plein d'associations locales qui ont déjà largement... Enfin, c'est elles qui ont fait en fait tout ce travail-là. Et ça me permet, si je peux, de répondre... un tout petit peu d'une autre façon à une question que vous avez posée, à savoir que vous étiez sceptique sur la proposition qui était faite, c'est tout à fait effectivement une discussion qu'on peut avoir qui est entièrement ouverte, mais déjà elles sont différentes à chaque fois. C'est pas parce que pour la question de l'autoroute il s'agit ici pour les associations de demander un enfouissement que on va parler, comme vous disiez, d'un enfouissement de l'aéroport. Pour autant, ce qui nous intéressait, c'était aussi de prendre, on va dire, le train en marge de ce qui est en train de se faire. C'est peut-être un compromis intéressant, pour le dire de cette façon-là, cette question de l'enfouissement. C'est-à-dire partir du fait qu'on sait d'avance, en tout cas au jour d'aujourd'hui, qu'on n'obtiendra pas la disparition de cette autoroute-là. On le sait. Donc, est-ce qu'on s'en tient là ou est-ce qu'on essaye de demander quelque chose qui est en partie réalisable, même si je pense, en tout cas, je suis la première à penser que ce n'est pas en effet complètement satisfaisant. En revanche, ça ne va pas nous empêcher, c'est le cas, je crois, de l'association qui travaille sur cette question du Bourget, par exemple, de se battre pour refuser les projets d'agrandissement de cet aéroport, mais aussi d'accroissement du trafic, voire de poser la question de la pertinence de cet aéroport à côté de l'aéroport de Charles de Gaulle, à côté de l'autre aéroport d'Orly.
Mathieu Gleiman.
Ce qui est aussi intéressant, c'est de montrer que des victoires ont été obtenues. La couverture de l'autoroute A1 a été obtenue au moment de l'arrivée du Stade de France, donc il peut y avoir tout à fait d'autres opportunités qui permettent à d'autres endroits de couvrir ou d'enfouir les autoroutes. Les transports en commun, c'est de la même manière. Il y a des associations qui sont battues pendant 10, 20, 30, parfois plus d'années pour obtenir l'arrivée d'une station de métro à un endroit. Moi, je donne toujours cet exemple. La mairie d'Aubervilliers est la seule mairie d'une ville en périphérie immédiate de Paris qui n'avait pas de station de métro. En 2017, elle va l'avoir. Bon, ben voilà, ces combats-là, parfois, ils vont mettre 10, 20, 30 ans pour émerger. Peut-être qu'il y a un petit coup d'accélérateur, non pas grâce au Toxic Tour, mais grâce au sommet sur le climat et l'énergie, qui va certainement zoomer sur un certain nombre de questions, et du coup, qui va peut-être faire accélérer les choses. Voilà. Et après, dans les gens qui ont organisé, par exemple, moi j'ai été contacté par un prof de l'IUT de Bobigny, qui travaille sur le développement durable, par une prof d'un lycée professionnel de Saint-Ouen, par des élèves en géographie urbaine à Paris 8, par des élèves en tourisme à Épinay. Donc tous ces gens-là, d'une manière ou d'une autre, ils ont envie de monter, alors je ne sais pas exactement comment ça se fera aujourd'hui, des balades avec à chaque fois le même principe. À la fois, on se balade et en même temps, on a des gens qui racontent des choses, donc soit une partie de l'histoire, soit des combats qui sont menés, soit des solutions qui sont proposées.
Donc des organisateurs, il y en a à foison et des candidats à la balade, il y en a aussi.
Moi, je ne m'inquiète pas. Dans le cadre d'une association, j'organise énormément de promenades et de balades urbaines en Seine-Saint-Denis. Il y a toujours des gens qui ont envie de découvrir ce territoire, y compris, d'ailleurs, et souvent en premier lieu, les habitants du territoire eux-mêmes qui, comme le disait Émilie, ils ont entendu parler du sujet. Par exemple, des autoroutes, évidemment, parce qu'ils la voient à côté de chez eux. Et en même temps, quand ils vont faire cette balade, ils vont ressortir de là, j'ai envie de dire, plus intelligents et plus experts sur le sujet, même si après, ils garderont que quelques éléments.
Pour chaque balade, effectivement, on aura la surprise de savoir combien on sera, mais on pourrait peut-être juste ajouter là-dessus qu'un des projets de ce projet, c'est de les répéter, en fait. Parce que, alors, il y a effectivement la perspective de la conférence climat 2015, et même d'ici cette conférence-là, on souhaiterait, en fait, encore une fois, en fonction de nos forces et de nos envies, refaire plusieurs fois le Toxic Tour autoroute, refaire plusieurs fois le Toxic Tour data center ou aéroport, précisément pour à chaque fois peut-être toucher des gens différents, des gens qui ne pouvaient pas venir, avec cette idée que, évidemment, le temps que on va dire que les combats ne sont pas gagnés, ils sont d'actualité en étant à chaque fois nourris des expériences précédentes de ces Toxic Tours et puis aussi des batailles qui sont en train d'être menées. Donc, c'est très modeste, peut-être qu'on sera 10, peut-être qu'on sera 20, ça, à la rigueur ça n'a aucune importance, mais voilà, l'idée ça serait de diffuser de manière beaucoup plus aussi vaste que l'on peut et de manière précise ces questions-là, ces enjeux-là.
Mathieu Gleiman.
Moi ce que je trouverais aussi intéressant dans ces balades, c'est qu'on ait des gens qui ont des fonctions différentes sur le sujet. Par exemple, quand on va faire la balade sur l'autoroute et qu'on va répéter cette balade, on aura à la fois des habitants, lambda entre guillemets, des habitants impliqués dans les associations ou collectifs, des élus sûrement, des techniciens, des experts du sujet. Et qu'est-ce qui fait une balade et qu'est-ce qui fait dans le fond une solution politique, c'est que tout le monde à un moment va se retrouver autour de la table. Alors là, les gens ils vont pas se retrouver autour de la table, ils vont se balader ensemble Et c'est aussi ça qui peut débloquer des situations. Moi, j'aimerais beaucoup que sur chacune des thématiques, il y ait des experts et des élus qui soient présents et qui se rendent compte aussi que les habitants qui sont sur le territoire, ils ont une vraie expertise d'usage et une vraie expertise de leur territoire.
Ça devient presque un jeu de piste. Mathieu Gleiman, là, il y a un tout petit plot à terre. À peine si on le remarque, si vous n'aviez pas attiré notre attention dessus, Emilia, on ne l'aurait jamais vu. Ça a l'air d'être un de ces petits poteaux indicateurs. Sauf qu'il y a écrit « danger » dessus. Et en fait, ça nous indique qu'on est sur un pipeline à haute pression et il y a un numéro d'urgence au cas où, mais on est au ras des maisons, on est au ras du canal. Et juste en face de ce fameux data center. Alors c'est quoi ce data center ? Qu'est-ce que c'est ?
Bon, le data center, c'est, je dirais, un gros ordinateur, quoi, qui permet...
Ah, il est très gros.
Oui, il est très gros, parce que celui qui est donc le long du canal, à la porte de Paris, c'est l'équivalent d'une ville de 30 000 habitants en termes de dépenses énergétiques. Donc, on se dit, on a un bâtiment qui crée peu d'emplois, occupe pas mal d'espace et en même temps a une dépense énergétique énorme pour un bâtiment de cette taille, quoi.
Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ?
Dedans, c'est tous nos mails, tous nos échanges sur Facebook, tous nos appels téléphoniques, tous nos textos qui passent par là à un moment et qui... Donc c'est une espèce de gros... je sais pas comment on peut dire, mais... Oui, moi, je qualifie ça de gros ordinateur, quoi.
Comme un gros nœud de transmission.
Voilà.
C'est surtout, je crois, une grosse boîte de stockage, en fait. Parce qu'on pense toujours que, comme on nous dit souvent, en bas de nos mails, il vaut mieux ne pas imprimer parce que ça serait plus écologique de, par exemple, envoyer un mail. Mais en fait, toutes les données numériques sont absolument pas immatérielles, mais prennent notamment ce genre de place en termes, on pourrait dire, géographiques, mais aussi énergétiques. Toutes les données sont stockées, en fait. Donc, on en a énormément dans le nord de Paris. Il y en a énormément aussi en Seine-Saint-Denis, en raison du fait que le foncier n'est pas cher. Également que, si je ne dis pas de bêtises, Jade Lingard avait fait un très bon article dessus dans Mediapart. C'est un nœud très important de réseau entre l'Europe du Nord, l'Angleterre, la France, etc. pour pouvoir stocker ce genre de données.
Ben, l'endroit sur lequel on est, en réalité,
le pipeline,
il y a énormément en Seine-Saint-Denis de gros réseaux qui sont enfouis. Donc, pour les transports notamment électriques qui servent pour les data centers et donc qui expliquent aussi qu'ils soient localisés là, en dehors du prix du foncier. Et ça, je pense que c'est aussi important qu'on mesure que nous-mêmes, individuellement, on a aussi une part de responsabilité dans ça. Parce que tous les mails, par exemple, qu'on stocke, qu'on ne va plus jamais lire et qui restent sur notre ordinateur, à chaque fois qu'on l'allume, d'une manière ou d'une autre, c'est réactivé, entre guillemets. Et donc, il faut aussi des endroits où on stocke toutes ces éléments-là. Alors après, le Toxic Tour, on va à la fois parler de différents sujets. Donc on va en faire un sur les autoroutes. On en a déjà fait un sur le data center qu'on refera pendant l'année. On va en faire aussi pour montrer des aspects positifs. Parce qu'on est aussi... On n'est pas ni pour dire on est un territoire victime, ni pour ne faire que se plaindre et dire ah ben en gros il n'y a que des stigmates du passé industriel qui restent sur le territoire. On veut aussi montrer qu'il y a des alternatives qui ont été mises en place sur, je ne sais pas, les économies d'énergie, donc dans le bâti, sur des panneaux solaires à tel endroit, sur de la construction de bois à tel autre, sur le développement très important par exemple sur notre territoire, des transports en commun, sur le développement encore un peu lent, mais qui quand même commence à bouger, des différents transports doux, donc des pistes cyclables, des aspects, des endroits pour marcher, voilà. Après, parce qu'on veut, on aime aussi notre territoire, on est attaché à ce territoire, et on n'est pas que dans une phase de dénonciation au moment du Forum mondial sur le climat, on veut aussi montrer qu'on peut très bien vivre ici, et quand on est ici, même symboliquement, je trouve qu'on sent bien, on pourrait être dans un quartier très agréable, s'il n'y avait pas une forte nuisance sonore. Ces petites maisons qui longent le canal, mais c'est le cas dans plein d'autres endroits sur le territoire, à la fois sur Saint-Denis et dans tout le département, il pourrait être vraiment agréable s'il n'y avait pas un certain nombre de nuisances qui venaient nous perturber en tant qu'habitants et perturber aussi la biodiversité.
Peut-être que le plus surprenant à l'issue de cette promenade toxique en Seine-Saint-Denis, c'est votre enthousiasme aux uns et aux autres à habiter ici. On pouvait imaginer en venant des habitants un peu par défaut, des gens qui auraient atterri là, en quelque sorte. Et on vous sent tous très heureux, attachés à votre territoire. Pourquoi est-ce qu'on vient vivre en Seine-Saint-Denis, bon. Mathieu Gleiman.
Moi, je peux dire pourquoi, avec ma compagne, on est venu ici. On avait envie d'avoir un enfant ensemble. Et on s'était dit, on a envie qu'il soit dans un territoire extrêmement métissé. Et c'est le cas, quand il était en maternelle, mon fils à Épinay était dans une école où il y avait 42 nationalités. Lui, c'est un petit blond aux yeux bleus, donc on le repère assez facilement. Les autres blonds aux yeux bleus sont des enfants serbes, russes, polonais. Et puis, un territoire aussi en mouvement très important, avec une créativité donc qu'on retrouve, y compris parfois dans des mauvais aspects, mais une créativité au sens très très large, culturelle évidemment, mais pas seulement dans la vie associative, dans les solidarités qui évidemment sont plus exactement les mêmes formes que dans les années 60 ou 70, mais renouvellent constamment ce territoire.
Je voudrais faire un slam pour une grande dame que je connais depuis tout petit. Je voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi. Je voudrais faire un slam pour une vieille femme dans laquelle j'ai grandi. Je voudrais faire un slam pour cette banlieue nord de Paname qu'on appelle Saint-Denis. Prends la ligne D du RER et erre dans les rues sévères d'une ville pleine de caractère. Prends la ligne 13 du métro et va bouffer au McDo ou dans les bistrots d'une ville pleine de bonnes go et de gros clando. Si t'aimes voyager, prends le tramway et va au marché. En une heure, tu traverseras Alger et Tanger. Tu verras des Yougos et des Roms, et puis je t'emmènerai à Lisbonne. Et à deux pas de New Delhi et de Karachi, t'as vu, j'ai révisé ma géographie, je t'emmènerai bouffer du mafé à Bamako et à Yamoussoukro. Ou si tu préfères, on ira juste derrière manger une crêpe là où ça sent Quimper et où ça a un petit air du Finistère. Et en repassant par Tizi Ouzou, on finira aux Antilles, là où il y a des grosses renois qui font « Toi aussi, là, quand au café là, ma fille ?»
Voilà, Terre à Terre, c'est terminé pour ce matin. Vous pourrez télécharger cette émission ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez notre revue de web hebdomadaire et un lien vers les Toxic Tours de Seine-Saint-Denis. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Genepin, Anne Gouzon, prise de son, Étienne Leroy, mixage, Valérie Lavalard, réalisation, Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.
Saint-Denis, ville sans égale, Saint-Denis, ma capitale, Saint-Denis, ville peu banale, où à Carrefour, tu peux même acheter de la choucroute halal. Ici, on est fiers d'être dionysien, j'espère que je t'ai convaincu, et si tu me traites de parisien, je t'enfonce ma béquille dans le... Non. Moi, je voudrais faire un slam pour une grande dame que je connais depuis tout petit. Je voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi. Je voudrais faire un slam pour une vieille femme dans laquelle j'ai grandi. Je voudrais faire un slam pour cette banlieue nord de Paname qu'on appelle Saint-Denis.